Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis toujours aussi ravi de vous retrouver pour parler avec vous d'une heure trente de sport hein, avec RTV Sport. Et pour ce faire, je suis avec mes deux animateurs préférés, Valérie et Alexandre. Salut tous les deux.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Et mon technicien préféré, Bruno.
Salut, salut
Bruno.
Lionel.
Ça va Bruno ?
Ça va, ça va.
Alors aujourd'hui, on va te faire plaisir. On va faire une discipline qui va te plaire à mon avis.
Ah
la
bon
randonnée.
Ça te plaît ? Ah la randonnée, eh bien.
T'aimes bien marcher ?
Oh.
Bon, en ce moment,
faut
tu cours,
dire,
mais...
Faut le dire vite, moi je marche avec ma moto. Hein.
Ouais, mais tu vas voir. À mon avis, après l'émission, tu te mets à la rando.
Ah, ça m'étonnerait.
Eh ben, on en reparle.
Ok.
Et pour en parler, je suis avec Jean-Pierre Tallieux, chargé de communication auprès de la Fédération Française de Randonnée Pédestre de Vaucluse. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir, à la radio. Bonsoir à tous.
Et on est vraiment ravis de t'avoir. C'est vrai que c'est un habitué de la radio.
J'allais le dire, mais tu as été plus rapide que moi. Effectivement, Jean-Pierre, c'est pas un inconnu au niveau de la radio.
Et puis, c'est toujours vraiment un grand, grand plaisir de l'accueillir parce que c'est vrai que la randonnée, quand on voit les paysages qu'on a dans le Vaucluse, ben, on ne peut faire que de la randonnée. Hein, Bruno ?
Surtout que oui, notre animateur préféré va bientôt s'y mettre.
Et ouais, tout à fait. J'ai pris deux topo guides, un du Mont Ventoux et un autre des Dentelles de Montmirail. Parce que c'est vrai qu'aller se promener en montagne, c'est bien. Mais quand on a un guide qui nous explique où on va, la manière dont on doit y aller, etc., je trouve que c'est une bonne chose. Et on va parler justement dans quelques instants des différents topo-guides, parce qu'il en existe beaucoup, édités par la Fédération française. Et surtout, bah, c'est une grosse, grosse aide. Comme ça, ça permet aux débutants comme moi bah, de pouvoir s'orienter dans la nature. Hein, voilà.
Oui, c'est toujours bon de savoir.
Alors aujourd'hui, on n'aura pas de résultats, parce que Valérie... elle n'a pas eu le temps de les faire, on va dire ça comme ça.
Hein, on va dire ça comme ça.
Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas grave parce qu'il y aura plus de temps pour Jean-Pierre. Par contre, on aura un sportif ou une sportive de la semaine ?
Un sportif.
Un sportif ?
Qui a battu un record ce week-end dernier en top 14.
Ah, il joue dans quel club ? Clermont ?
Toulon.
Oh, ça y est.
Ancien Toulousain.
Ah, bon, d'accord. Il n'y a pas de Clermontois alors ?
Non.
Bon, tant pis. Pourtant, il y a de bons Clermontois en équipe de France.
Ouais, mais ils ne font pas les records.
Non, c'est vrai. Allez. Donc, on va passer, enchaîner directement donc, avec la randonnée. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu as souhaité qu'on parle de rando pour tous. Donc, c'est vrai que la rando pour tous, c'est un terme générique qui englobe la rando santé, ça englobe la rando douce et également l'handi rando.
Handi rando, oui.
Voilà. Donc ça, on va développer tout au long de cette émission. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est quelle différence y a-t-il entre la randonnée pédestre, que tout le monde connaît, et la rando pour tous ?
Sur le plan général, la différence entre la rando pour tous et la rando traditionnelle, c'est que les randos traditionnelles, il n'y a pas de limite. Hein. On peut marcher 20, 25 km, pourquoi pas 30, avec une dénivelée qui peut dépasser les 1000, 1500 mètres. Alors qu'en rando douce, c'est quand même plus doux. Hein. Les randonnées ne dépassent jamais 9 km. Hein. Et avec une vitesse qui est de 5, 3 km à l'heure, et pratiquement limitée à 200, 250 mètres de dénivelé. Ça, c'est pour la rando douce.
Et la rando douce, pour tous, tu as dit, avec des dénivelés, pour pouvoir aller jusqu'à
la rando pour tous, il n'y a pratiquement pas de dénivelé. Hein, parce qu'on a parlé à l'instant de randonnée traditionnelle. La randonnée traditionnelle ne fait pas partie de la rando pour tous. Hein, la rando pour tous, c'est comme a dit tout à l'heure Lionel, c'est rando douce, rando santé et handi rando. Voilà. Et c'est ces trois-là qui sont quand même limités en distance et en pénibilité.
Ah oui, parce que j'allais te dire...
Mais pourquoi avoir différencié, en tout cas pas différencié, mais diversifié justement les différentes randonnées ?
La rando douce, c'est surtout destiné à des gens qui ont déjà fait de la randonnée, qui ont même pratiqué pendant longtemps, mais qui, bien sûr, ils ont vieilli. Et ils se sentent moins capables ou ils veulent moins se fatiguer que ce qu'ils le faisaient auparavant. Et c'est des gens qui veulent réduire. Voilà, ils veulent ne plus faire 20 km, ils veulent en faire plus que 10 ou 9, et ils ne veulent pas monter 1500 mètres, ils ne veulent pas monter le Ventoux, ils veulent faire un petit dénivelé de 200, 250 mètres, pas plus.
Alors, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, parce que c'est vrai qu'on va parler surtout de la rando pour tous, c'est-à-dire qu'il va englober les trois disciplines.
Hein. Les trois.
Est-ce que tu peux, parce que je pense qu'au niveau de la Fédé, vous devez tenir quelques statistiques, est-ce que tu sais à peu près combien il y a de pratiquants en randonnée pédestre? Je ne parle pas en rando pour tous pour l'instant, mais en randonnée pédestre. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de pratiquants?
Ben, je vais parler pour le Vaucluse.
Ah oui, pour le Vaucluse.
Voilà, pour le Vaucluse, ça sera plus parlant pour tout le monde. Mmh. Il y a 3400 adhérents à la Fédération qui pratiquent la randonnée traditionnelle.
Et au niveau de la rando pour tous?
La rando pour tous, il y en a beaucoup moins, bien sûr, parce que c'est pas... il y a, pour te donner une idée, il doit y avoir, je pense, une quinzaine, peut-être une vingtaine seulement de clubs sur 52 qui pratiquent la rando douce.
Est-ce que, quand on parle de rando pour tous, tu parles beaucoup de la rando douce, parce que c'est vraiment, la seule rando qui représente la rando pour tous? C'est-à-dire que le handi-rando et puis la rando santé, c'est marginal?
Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est complètement différent. D'abord, il y a un diplôme particulier pour tout ce qui est rando santé. Le diplôme habituel d'animateur de groupe ne suffit pas. Mmh. Il faut un module de formation de plus que nous octroie la fédération. Voilà. Et la rando santé, ce sont des personnes qui ont peut-être fait à un moment donné de la rando traditionnelle, qui se sont peut-être mis à la rando pour tous, à la rando douce, et qui maintenant ont un problème pathologique, un problème de santé. Mmh. Et ces gens-là, bien sûr, avec l'accord de leur médecin, vont faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire que c'est des randonnées vraiment étudiées, cas par cas, et pour des gens qui ne marchent pas 10 km, mais c'est limité à 4 ou 5, pas plus. Pratiquement pas de dénivelé, c'est plat. C'est pour ça que souvent nos sentiers se passent au bord de rivières. Là, le sol est très plat. Comme ce matin, nous avons eu chez vous, parce que vous avez un super coin de rando santé, c'est les berges de l'Ozon. Hein, nous sommes partis des berges de l'Ozon, nous avons suivi la rivière, ensuite on a suivi à gauche le canal de Carpentras, hein, ensuite nous sommes arrivés à la passerelle pour traverser la départementale, et ensuite nous avons continué et fini par la Via Venezia, c'est-à-dire la nouvelle voie verte. Ça fait 5 km 400, pratiquement pas de dénivelé, 20 ou 25, 30 mètres maximum. Ça, c'est de la rando santé. Et pour la rando santé, il y a un accord du médecin de la famille, et chaque personne qui est participante chez nous est vue par notre médecin fédéral.
Mais justement, on développera
donc
un petit
pas
peu
de la rando. Ouais. C'est pas de la rando douce.
Mais justement, on y rentrera plus en détail, parce que c'est vrai que c'est quand même pour la rando pour tous, c'est-à-dire les trois disciplines, elles sont nées il y a combien de temps à peu près?
Pardon?
Elles sont nées il y a combien de temps? Elles sont récentes, ces activités?
Oui, ça s'est fait petit à petit. La rando douce, il doit y avoir à peu près 5 ans. Mmh. En gros, hein, 5 ans. Et la rando santé, ça fait, sur le Vaucluse, toujours, ça fait un an.
Un an. Mmh. Mais est-ce que c'est pas une connotation commerciale, le fait que la fédération crée ces nouvelles disciplines? Alors, si je te pose la question, c'est pas provocateur, mais quand moi, je regardais un petit peu sur le site de la fédération française, pas de Vaucluse, mais au niveau national... J'ai vu qu'il n'y avait pas que ça comme rando. Tu as la rando citadine.
Oui.
Tu as le Longe-Côte.
Oui.
Tu as le rando catching. Donc, il faudrait que tu me dises ce que c'est. Les marches au Dax. Ensuite, il y a donc les marches en raquette dans la neige. Et ensuite, il y a pour les jeunes le programme des ailes à tes baskets.
Oui, mais moi, je pense qu'en fin de compte, la marche, elle évolue déjà en fonction de la société, en fonction du lieu où on se trouve.
Oui, de l'environnement.
De l'environnement. Oui, bien sûr. Hein, parce que là, c'est parlant, hein, quand tu dis la marche
nous,
de la
raquette,
citadine, etc. Donc, tout ça, c'est en fonction, comme Jean-Pierre disait, de l'environnement. Donc, et puis, on évolue, donc la marche évolue. Puis, comme tout à l'heure, il disait, la marche douce. Moi, je peux comprendre qu'arrivé à un certain âge, on n'a plus envie de marcher rapidement. On a envie de profiter différemment de la marche, c'est ça, hein, et son état qui permet l'état physique.
Pour donner une ordre d'idée aux, ordre d'idée aux auditeurs, sur une seule association, mais bon, c'est parlant, il y a autant de personnes toutes les semaines qui marchent en rando traditionnel, c'est-à-dire capable de faire des 15-20 km avec des gros dénivelés, que de rando douce.
C'est normal. Moi, je trouve qu'à partir d'un certain âge, je veux dire, on
hier,
se dévie.
Il y avait une rando douce, voilà. Il y avait quand même 35 personnes. Bah. En rando santé, on est moins nombreux.
Oui, parce que qu'on c'est est limité. Spécifique. Voilà. Et puis,
on peut pas
bah, c'est par rapport à
animer un groupe voilà. de, supérieur à 12 personnes. Mmh. Et encore, parfois, ça descend à 6 quand c'est des cas vraiment pathologiques,
oui,
difficiles.
Ouais. D'accord.
Mmh. Alors, on va faire une petite pause musicale, mais bon, on va dire, Jean-Pierre n'est pas venu seul. C'est vrai qu'il est venu avec un compère qui sort du travail, donc c'est vrai que ce n'était pas évident. Donc, je salue Serge Bissiglier. J'espère que je n'ai pas écroché ton nom de famille. Parle près du micro. C'est bon, il a allumé le micro de Serge ? C'est bon. Donc, bonjour Serge. Merci d'avoir accepté notre invitation comme Jean-Pierre. Et tu es également animateur rando. Tu es également animateur de Marche Nordique et tu en es le président.
Et je suis président de l'association Les Randonneurs des Sentiers Contadins à Carpentras.
Voilà, mais écoute, en tout cas, on est vraiment ravis de t'avoir. On va te laisser t'installer pendant la pause musicale.
Parfait.
Tu rêvais de partir, un peu comme si l'ambiance n'était plus de la partie. Irrésistible, envie de te parler, t'influencer sur la suite du programme de la soirée. Je sais qu'au fond, tu te sens libre au bout du compte. Tu te sens seul la nuit dans la ville, on se sent vif. Tes fossettes se creusent quand tu te mets à rire. Tous ces moments passés, j'ai voulu te prouver que tu étais ma princesse. Tu ne voudras plus te passer de moi, tu aimes t'en m'enlacer. Tu n'en auras jamais assez, je le sais car je te connais. Quand on a le temps, on s'aime sur un banc à l'abri des passants. Quand la nuit tu me dis va-t'en, quelle idée de la considérer de truc un passe-temps. Chaque fois que je te vois, j'ai cette envie de voyager. La tête dans les nuages, suis heureux où que j'aille. You can feel the rain, walk with no make-up. You can feel the pain, hello, hello. Célèbre si savoureux, je ne pourrais pas l'avouer. Si elle me voit comme un jouet, pourtant je vois la joie dans ses yeux. Chaque fois qu'on s'aime, chaque fois qu'on a choisi le calme à la fête.
Chaque fois qu'on a choisi le calme à la fête.
Chaque fois que je te vois, j'ai cette envie de voyager. La tête dans les nuages, suis heureux où que j'aille. You can feel the rain, walk with no makeup. You can feel the sur un banc à l'abri des passants. Sache que je suis patient, tes yeux ne mentent pas, je sais que tu m'attends. Quand tu as le temps, tu m'aimes sur un banc à l'abri des passants. Sache que je suis patient, tes yeux ne mentent pas, je sais que tu m'attends.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc nous revoilà dans le studio. On est bien sûr en direct sur le 102.2 depuis le studio de Carpentras-Serre. Notre invité Serge Bisséglier s'est bien installé. Ça va bien installé, tranquille ?
Très bien, merci.
Bon, pense à parler bien près du micro.
Bien accueilli, bien installé.
Bon, on essaye en tout cas. Et donc, Jean-Pierre Tadieu, donc toi, tu es un habitué, tu savais où c'était.
Voilà.
Et c'est toujours un grand plaisir, en tout cas, d'avoir les membres de la Fédération française de randonnée avec nous. Alors, juste avant la pause musicale, on parlait juste de la différence qu'il peut y avoir entre la randonnée traditionnelle et la rando pour tous. Et c'est vrai que quand je posais mes questions concernant les différents types de randonnée, savoir si ce n'était pas plutôt une connotation commerciale plutôt qu'autre chose, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de randonnées qui sortent, parce que la randonnée, ça reste de la randonnée. Donc c'est ça un petit peu qui m'a interpellé quand j'ai regardé sur le site internet, que j'ai vu qu'il y avait la rando citadine, etc. Je me dis, la rando citadine, c'est comme quand je vais faire mes courses.
Oui, bien sûr.
Un petit peu ça.
Oui.
Et par contre, j'ai vu, et c'était la question que je voulais te poser avant, après la pause musicale, la rando catching, c'est quoi ?
Nous, on ne la pratique pas.
Et c'est quoi ?
Je ne pourrais pas te dire exactement.
La rando catching...
Peut-être que tu pourras répondre,
ouais, Serge.
Oui, un peu, je ne fais pas de rando catching, mais ça correspond...
C'est un jeu, non ?
C'est un jeu, en fait. Ah. On cache des choses et c'est un genre de jeu de piste.
Ah ouais ?
Et il faut retrouver, en fait, les
objets. Mais pour les petits ou pour les grands ?
Non, pour les grands aussi.
Pour les grands aussi ?
Bien sûr.
Ah, c'est bien ça. Et les marches au Dax ? Les marches au Dax ? Non ?
Non.
Ça ne vous dit pas ? Bon, Valérie, Maître Capello, elle va rechercher. Et puis après, il y avait effectivement de la randonnée pour les adolescents. Par contre, ce qui est bien, c'est que la randonnée évolue avec son temps. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la randonnée pour faire la randonnée. C'est-à-dire qu'en fonction des spécificités des personnes, je parle des personnes à mobilité réduite ou handicapées, je parle des jeunes, hein, comme Alexandre, des ados, qui ont un peu de mal à tenir en place. Mais il y a des programmes qui sont à destination de ces différents publics. Le fait que la fédération s'est mise au goût du jour, c'est, on va dire, à rénover un petit peu tout ça, vous pensez que ça permet d'augmenter le nombre de pratiquants ?
Oh, ça, c'est certain. C'est peut-être pas la ligne, le regard premier de la fédération, mais c'est certain que ça joue là-dessus quand même. Hein. Mais bon, c'est essayer d'être au plus proche de la demande des personnes qui aiment marcher. Voilà.
Parce que c'est vrai que la randonnée, tout le monde peut en faire. On n'est pas obligé d'être licencié à un club. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui nous écoutent, qui font de la randonnée, on va dire, en étant libre, c'est-à-dire sans être licencié à un club, en leur disant, ben voilà, non, venez dans notre club, c'est important de venir parce que voilà ce que vous allez y trouver. Parce que c'est vrai que moi, je prends mes chaussures de randonnée, mon pantalon, j'ai deux topo guides que tu m'as donné, donc c'est bon, je suis parti. Mais quel est l'intérêt d'aller dans un club alors ?
C'est vrai que quelqu'un qui déjà arrive à s'orienter, il aura peu besoin de la fédération et de ses animateurs. Mmh. Mais le fait de passer par une association, il y a quand même pas mal d'avantages. C'est pour vivre la randonnée au sein d'une communauté, partager un état d'esprit, reconnaître les mêmes valeurs. Pour soutenir la fédération et ses 20 000 bénévoles dans leur œuvre d'aménagement des itinéraires de randonnée.
C'est vrai que sans eux, on ne pourrait pas faire
voilà,
de la randonnée.
Imaginons
quoi.
Qu'il n'y ait pas d'adhérents, pas de fédération, et ben, tu te promènerais tout seul sur ton sentier, il ne serait pas balisé d'une part et il ne serait pas entretenu. Ça a un coût. En participant, en étant licencié à la Fédé, tu permets ça. Pour participer aux actions de sauvegarde et de protection du patrimoine, des chemins et sentiers, ce qu'on disait un petit peu. Parce qu'il y a quand même des équipes, il y en a 4 ou 5, je crois qu'il y en a 5 dans le département, sur les massifs principaux, dont le Ventoux par exemple, qui sortent régulièrement en équipe, bénévolement, pour baliser. Pour revoir le balisage, comme tu dois savoir, Lionel, le balisage s'efface avec les intempéries et il faut les reprendre.
Parce que c'est sur du bois, donc
voilà.
Forcément, ça, c'est la peinture sur du bois, ça s'efface.
Exactement. Ça peut être au sol aussi. Hein. Mais bon, souvent sur le tronc du bois, c'est quand même plus visible. Hein. Voilà.
Donc tout ça, c'est vrai que ça nécessite... Et par contre, une personne qui est randonneur, et qui a envie justement de s'impliquer auprès de la fédération et il a envie de devenir baliseur. Est-ce qu'il y a une formation ? Est-ce qu'il est obligé d'avoir un quota d'heures mensuel d'aide ? Comment c'est organisé ? Serge ?
Oui, tu peux répondre si tu veux. Tu sais répondre ? Oui.
Partiellement, vas-y. Oui. En fait, la fédération organise des stages de baliseurs et apporte une formation à ces gens-là. Quoi. À la base, ils sont randonneurs. La plupart, c'est des passionnés. Mmh. Et bon, ils font une demande et la fédération les prend en charge et leur donne une formation pour ça. Quoi.
Mais par contre, il n'y a pas mensuellement un nombre d'heures minimum à faire pour le baliseur.
Non.
Il fait
non.
en fonction de ses
disponibilités. Chaque équipe est vraiment indépendante. Hein, et voilà.
Et l'équipe est composée de combien de personnes ?
4 ou 5 personnes, je crois. Moi, je n'en fais pas du balisage, mais j'ai dans mon association une équipe, je crois qu'ils sont 4 ou 5.
Parce que dans le Vaucluse, il y a combien de kilomètres à baliser ?
Oula ! De GR, je crois qu'il y en a environ 1000.
Ah oui, il y a de quoi faire quand même. Hein. Mm. Et tous les ans, les baliseurs repassent pour... ou est-ce qu'il y a quand même la possibilité d'attendre quelques années ?
Je crois qu'il y a un délai à respecter. Je crois que c'est toutes les années peut-être, ou tous les 2 ans.
Alors, tous les années, ils font des tronçons, mais ce n'est pas possible de tout faire avec le nombre de baliseurs. Il faudrait beaucoup de baliseurs et c'est difficile à trouver. Mm. Il y a peu de volontaires.
Plus près du micro, sinon on ne vous entend pas.
D'accord. Donc c'est assez difficile de trouver des volontaires pour faire du balisage et c'est vrai qu'aujourd'hui la fédération a un problème, c'est de trouver un nombre suffisant de baliseurs pour pouvoir refaire correctement tous ces marquages.
Donc on peut lancer un appel en disant que s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui aiment bien la randonnée, bah, ils peuvent peut-être prendre contact avec vous pour devenir baliseur.
Absolument.
Parce que la formation initiale, elle dure combien de temps ?
C'est 2 fois 2 jours, je crois.
2 fois 2 jours ?
Je crois que c'est ça.
Et on apprend quoi ?
Ben d'abord, il faut connaître l'orientation, hein, s'orienter déjà.
Hein. Bah oui, parce que c'est pas. Ouais.
Bien savoir se reconnaître dans une forêt, par exemple.
Hein. Ça commence par la lecture de cartes et voilà, l'orientation en général. Mmh. Puis après les règles de balisage. Quoi.
Je pense que c'est un module complémentaire à la formation d'animateur.
Oui, mais enfin, il est indépendant.
C'est indépendant, mais on peut pas passer diplôme de baliseur si vous n'avez pas auparavant. Le diplôme, le SA1 ou le SA2.
Et le SA1 et SA2, pour nous qui n'y connaissons pas.
Ce sont les spécifiques animateurs. Premier niveau, deuxième niveau. Là, c'est la formation que propose la fédération pour que les animateurs, j'allais dire les guides, mais on n'a pas le droit de dire guide, les animateurs puissent se former. Et savoir au moins s'orienter, au moins ça.
Alors aujourd'hui on appelle le SA1 et SA2. Le SA2 correspond à l'ancien brevet fédéral de la fédération. Oui. Le SA1 est un premier niveau qui permet d'apprendre, de connaître, de maîtriser la lecture des cartes et l'orientation. Et puis le SA2, donc c'est le complément, tout le complément sécurité, animation, de groupe, etc.
Météorologie, ça va loin, hein.
C'est en train de changer pour 2019. Oui. Il y a une nouvelle formation, il y a une nouvelle façon d'approcher la formation qui est en cours. Et voilà.
Mais elle n'est pas encore.
Et justement, tu parlais à l'instant de dire on n'a pas le droit de dire guide. Et justement, j'aimerais connaître la différence entre un animateur de la Fédération française de randonnée, d'accord, et un guide moyenne montagne.
Histoire d'argent. Un guide de montagne, il est rémunéré.
Mais sinon, l'activité est sensiblement la même.
En pratique, pas tout à fait peut-être, mais bon, on fait une partie de ce qu'il fait. Mais bon, on n'est pas guide parce qu'on n'est pas professionnel.
Voilà, c'est un diplôme d'État.
C'est un diplôme d'État. Ouais.
Diplôme d'État.
Voilà. Il y a le brevet fédéral. Voilà. Et ensuite, un peu comme dans beaucoup de sports. Hein.
Voilà.
Parce que la randonnée pédestre, et après je reviendrai vers Valérie par rapport aux marches Audax, c'est un sport, alors individuellement, hein, vous pouvez répondre, c'est un sport ou un loisir ? Serge,
Pour moi, c'est les deux. Hein.
C'est les deux en même temps.
C'est les deux
moi, je suis d'accord
temps.
Avec
voilà,
toi
c'est
aussi,
ça.
Serge.
Alors, il y a des gens qui viennent uniquement pour la partie loisir et d'autres qui viennent pour le sport. Et justement, je voulais faire un complément tout à l'heure sur ce que pouvait apporter l'association. Et justement, d'abord, elle apporte la convivialité. Partir tout seul, c'est bien, mais bon, il n'y a pas le groupe. Mais aussi, l'association est en mesure d'apporter une organisation et une structure dans toutes ces sorties, c'est-à-dire que par exemple au club de Carpentras, on a des sorties pratiquement tous les jours de la semaine et avec des niveaux différents, on va appeler des niveaux, donc c'est-à-dire des longueurs, des distances différentes et des difficultés différentes. Donc chacun va y trouver son compte. Les gens qui veulent faire du loisir, eh bien, ils vont choisir des randonnées plus faciles et puis ceux qui veulent faire un peu plus sportif, ils vont choisir les jours où on fait des sorties plus difficiles. Quoi.
Ah ouais, ça c'est bien par contre. Et par contre, au niveau de l'encadrement, pour en revenir justement aux animateurs, pour quelqu'un qui veut sortir avec un club, il est forcément accompagné d'un animateur diplômé au moins du SA1.
Tout à fait. Ce n'est pas obligatoire. Hein. C'est conseillé fortement par la fédération Parce qu'il y a encore dans des associations certains animateurs qui connaissent bien leur travail, mais qui n'ont pas de diplôme.
C'est ça.
Il n'y a pas d'obligation, quoi.
Il n'y a pas d'obligation. Non.
Ensuite, lorsque on débute la randonnée, comme tout sport, parce que vous m'avez dit c'est également un sport, est-ce qu'il faut obligatoirement un certificat médical ?
Oui.
Oui.
Ça, c'est obligatoire.
Obligatoire.
Et est-ce qu'il existe des contre-indications à la pratique de la randonnée ?
Oui, ça peut être. Il peut y en avoir des contre-indications. C'est-à-dire,
ça dépend.
Il y a des gens qui ont des prothèses et qui ont des difficultés. Et donc, on peut effectivement.
Faire de la marche rando. Ouais. De l'andi rando.
Il faut que les personnes se connaissent et n'aillent pas, s'il est cardiaque, par exemple, faire une traditionnelle de 2000 mètres de dénivelé sur 30 km de distance. Quoi. Voilà.
Après, il y a aussi les asthmatiques. Parce que, tu sais, quand les foins commencent à arriver, les allergies. Parce que moi je suis un peu allergique aussi, pour ça que je me dis, quand tu as le rhume des foins, tu es en montagne, bon ça va, j'ai pas de tendance asthmatique, mais quelqu'un qui est asthmatique, je pense que.
Il y a des gens qui font de l'asthme de l'effort, et donc ces gens-là, ils peuvent pas faire n'importe quoi, donc ils sont limités. Quoi.
Alors Valérie, oui, quand je parlais tout à l'heure sport ou loisirs, les marches d'Ax, t'as retrouvé ?
Oui, c'est une épreuve de régularité et d'endurance où tous les membres du groupe partent en même temps et finissent en même temps.
Ah ouais.
Ouais. 6 km à 6,5 km de vitesse, on peut dire. Et cette pratique sportive exclut tout esprit de compétition, ils disent. Mais chaque membre cultive pour autant une véritable hygiène mentale et physique afin d'être en mesure de boucler à pied, ils disent, des distances pouvant aller de 25 à 200 km. Donc on part ensemble et on revient ensemble, mais à allure soutenue, on va dire. Hein, voilà.
C'est un peu comme un trail.
Voilà.
Tout ça pour dire que ce n'est pas tout le monde qui est capable. Non. De s'aligner sur ces courses-là. Hein.
Et pourquoi la marche Audax ? Le mot Audax, en fait, ça vient de audacieux.
Ah oui.
Voilà.
D'accord.
Et voilà, c'est du latin. Hein, et c'est des Italiens, en fait. La formule Audax date de 1897. La formule, on parle, hein, Audax. Et c'est à l'époque donc, à laquelle 12 jeunes cyclistes italiens se lancèrent le défi de rallier à vélo Rome à Naples. 230 km. 9 réussir et leur chevaucher donc fut qualifié d'audacieuse. Donc voilà, tout simplement ça. Et le début du mouvement Audax est arrivé. Audax, on peut le trouver en cyclomotorisme.
Sur le Vaucluse, il n'y a pas.
Voilà.
Mais quand je vous dis que Valérie, elle est au courant de tout, hein, c'est impressionnant. Hein.
C'est
pour ça qu'on l'apprend tous les lundis. Hein.
Oui, merci quand même sur Internet.
On a bien fait venir.
On a tous autour de la table appris quelque chose.
C'est vrai.
Voilà.
Voilà.
Parce que moi, jamais j'aurais pensé à audacieux, quoi. Audax, audacieux, oui. D'accord. Mais bon, voilà.
Mon petit Bruno, est-ce que ça commence à déjà te donner un petit peu envie de faire de la rando ?
Non.
Toujours pas ?
Je voudrais rajouter un point aussi.
Vas-y,
toujours pour les associations. Donc, on a parlé de plusieurs possibilités de sortie avec des niveaux différents, des adaptations. Mais l'association permet aussi de faire des séjours. On est organisateur de séjours.
Ah oui.
Et donc, par exemple, à Carpentras, on organise entre 5 et 6 séjours par an.
Mais justement, alors, je te propose, on fait la petite pause et musicale et on en parle juste après des séjours parce que ça peut intéresser pas mal d'auditeurs. À tout de suite.
Waiting for the day they feel good.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc si vous nous rejoignez, écoutez, soyez les bienvenus dans votre émission sportive de la semaine sur RTVFM. Il s'agit d'RTV Sport et aujourd'hui on parle de randonnée. Alors, randonnée pédestre, mais plus précisément de rando pour tous. Hein, on en parlera dans quelques instants avec nos deux invités d'honneur. Tout d'abord, Jean-Pierre Tallieu, chargé de communication auprès de la Fédération française de randonnée pédestre de Vaucluse.
Et bon. Référent
et
de
référent
la rando pour tous.
Pour tous, tout à fait. Ça, c'est à rajouter. Et tu es accompagné aujourd'hui d'un novice de la radio, mais en tout cas, pour l'instant, il se débrouille très bien.
Très bien, ouais.
Il s'agit de Serge Bicyclier. Voilà, donc Serge, tu es animateur de randonnée, de marche nordique et également président du club de Carpentras qui s'appelle Les Randonneurs des Sentiers Contadins.
C'est ça.
J'ai rien oublié.
C'est parfait.
Alors, juste avant la pause musicale, on parlait des séjours que les clubs organisaient. Parce que c'est vrai que la question initiale était quel intérêt a-t-on d'adhérer à un club plutôt que de faire de la randonnée tout seul dans les montagnes ? Et toi, tu parlais justement de l'organisation de séjours.
C'est ça. Les clubs, en général, la plupart, pas tous, mais la plupart organisent des séjours de plusieurs jours dans le courant de l'année. Par exemple, cette année, nous, on avait, comme habituellement d'ailleurs, on organise un séjour raquette. Alors, le séjour raquette, il faut un moniteur, il faut un animateur diplômé. On n'a pas ça dans le club, donc en général, on prend quelqu'un. On était dans les Pyrénées. À Aix-les-Thermes, voilà, on a passé une semaine. On a un séjour qui est prévu au mois de juin en Auvergne. On en a un autre du côté de Briançon en septembre, puis un à Menton en octobre. Enfin, voilà. Ouais.
Ah oui, donc il y a pas mal de séjours.
Chez nous, oui. Après, voilà, en moyenne, ça peut aller de 1 à plusieurs séjours suivant le club et l'importance du club.
Alors, Serge, on sait de quel club tu appartiens. Et toi, Jean-Pierre, tu appartiens à un club ?
Bien sûr.
Ou juste à la fédération ?
À la fédération, et puis il y a un club, obligatoirement.
Quel club ?
C'est un club de Dupontet qui s'appelle les Solars d'Eviron.
Et qui sont spécialisés dans la rando santé.
Ben, à l'heure actuelle, c'est la seule association départementale en handirando et en rando santé.
C'est ça. Justement, on en parlera dans quelques instants de tout ça, parce qu'il y a eu un événement qui malheureusement a été annulé vendredi. Mais qui sera certainement reporté.
Très bien.
En condition des conditions météo.
Ouais, ouais.
Pour revenir justement au distinguo qu'il peut y avoir entre les différents types de rando, on a fait le distinguo entre la rando traditionnelle, la rando pour tous. Et il y a une autre rando qui a vu le jour, il s'agit de la marche nordique. C'est-à-dire, c'est quoi la marche nordique ? On marche dans la neige ?
Non, la marche nordique, le mot nordique vient du fait que, en fait, ça vient du ski de fond, c'est les Nordiques qui ont les pays nordiques qui ont mis ça au point pour des périodes où il y a moins de neige en fait. Et c'est une marche en fait sur quatre appuis.
Donc on prend les bâtons.
On prend des bâtons, voilà.
Mais c'est de la rando traditionnelle avec des bâtons.
Voilà, mais en fait on se sert des bras et on se propulse avec les bras aussi, donc c'est assez physique. D'ailleurs, on dit que plus de 80% de muscles du corps travaillent durant la randonnée, quoi, durant la marche nordique.
Toi, t'avais essayé, toi, Valérie ?
Oui, et ben j'en faisais occasionnellement. Là, j'ai un peu arrêté, mais c'est vrai que je partais dans la forêt de Venasque, et alors Je partais avec mes bâtons et mon chien. Mais je faisais pendant une heure de la marche comme ça. C'est assez rapide hein, quand même. Hein. Il faut oui, avouer que tu marches rapide. Et puis, je veux dire, c'est quand, par exemple, Venasse, que nous, ça monte hein, quand oui. même. C'est quand même plus facile aussi avec les bâtons de monter.
Ben oui, si on se propulse voilà. bien, si voilà. on pousse bien les bras, c'est plus facile.
C'est moins fatigant. Voilà.
C'est sûr. Et puis, on allège aussi la charge sur les articulations. Quoi. C'est 30% de moins de charge sur les genoux et les hanches, par exemple.
C'est vrai que moi, j'ai essayé les deux, hein, sans bâton et avec le bâton. Je suis moins essoufflé avec les bâtons que sans bâton.
Bah, oui, forcément. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'engouement. On y reviendra justement sur la marche nordique parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. C'est intéressant et j'ai l'impression que c'est un petit peu la nouveauté. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde rentre dans ce credo, donc je pense que ça doit être très très intéressant.
Mais moi, je vais juste faire une parenthèse, hein. C'était pour remercier justement Jean-Pierre, parce que c'est grâce à Jean-Pierre, il y a déjà 2 ans, hein, ça va faire 3 ans, que j'ai connu la marche nordique. Donc tu vois Jean-Pierre, hein, t'es habitué quand même hein, à venir à la radio. Et j'avais fait justement une démonstration, c'est à Sommane.
À Sommane, oui.
Voilà. Et il y a 3 ans de ça bientôt.
Ben, là, il y a le même événement ouais. qui va avoir lieu cette année, ça sera au mois de mai, on en parlera en fin d'émission.
Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde d'y aller parce que c'est vraiment, vraiment agréable. Les gens sont super sympas. On vous prête les bâtons, on vous donne un super tricot.
un t-shirt.
Ah. Oui, bon, je suis un peu
quoique, ça dépend de la saison.
Voilà, un super t-shirt, et puis tout le monde s'en va. C'est pas mal.
En parallèle avec le sport, ce qui est intéressant dans ces journées-là, c'est la réunion des gens, c'est-à-dire c'est très familial, c'est très convivial. Donc vous pouvez venir avec vos enfants, je crois à partir de 10 ans.
10 ans,
c'est, ouais, ça. C'est ça. Et donc là, il y a une journée qui se passe en famille, entre amis, c'est très sympathique.
Ouais. Alors, je vais revenir. Tout à l'heure, je parlais des statistiques. J'aime bien les statistiques aujourd'hui. On a parlé du nombre de randonneurs traditionnels dans la rando santé. Est-ce que tu connais à peu près le taux d'adhérents en marche nordique, Jean-Pierre ou Serge?
Dans le Vaucluse, oui.
Dans le Vaucluse.
Dans le Vaucluse, c'est à peu près environ 450 licenciés.
Ah, c'est
à la Fédération française de randonnée pédestre. Après, il y a d'autres fédérations et il y en a encore plus, quoi.
Ah, parce qu'en fait, la marche nordique, entre guillemets, ce n'est pas une marque déposée pour la Fédération française de randonnée pédestre.
Non, ça le serait plutôt pour la Fédération française d'athlétisme. Pardon.
Ah bon ?
Oui. Au départ, c'est eux qui organisaient, ils sont à même d'organiser les compétitions officiellement. Mm-hmm. Et donc, ça a démarré par cette fédération. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de fédérations qui s'intéressent à ce sport parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et puis, bon, c'est vrai que l'engouement, il n'arrête pas de monter.
Alors, maintenant, on a des débutants, des confirmés. Quand on débute la randonnée, on commence par combien de kilomètres à peu près? Parce qu'on parlait tout à l'heure, Valérie, avec les marches d'axe de jusqu'à 200 kilomètres. Je ne pense pas que ça soit la norme. Mais quand on débute, on commence par combien de kilomètres, combien de dénivelés? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, Serge?
Alors ça aussi, c'est très variable en fonction de la condition physique de l'individu. Parce qu'il y a des gens qui viennent faire la randonnée, ils sont déjà sportifs. Et ils sont à même de faire 20 kilomètres avec 1000 mètres de dénivelé sans problème. Ils ne vont pas se poser de questions. Par contre, des gens qui n'ont pas l'habitude, qui ont déjà une soixantaine d'années, par exemple, il vaut mieux qu'ils commencent par, s'ils ne sont pas vraiment sportifs, il vaut mieux qu'ils commencent par faire des petites sorties de 8 km, entre 8 et 10 km, avec des dénivelés qui sont plutôt faibles, on va dire entre 0 et 200 mètres ou 300 mètres de dénivelé maximum. Quoi. Voilà.
Et 8 et 10 km, on le fait en combien de temps?
On va le faire en 3 heures pour ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher.
Ça fait à peu près 3-4 km heure, c'est ça?
Un peu moins, oui. Ils vont marcher un peu moins, ouais. 3 km heure maxi. Ouais.
Et cette vitesse-là, c'est la vitesse normale, on va dire, d'un randonneur ou il va quand même beaucoup plus vite?
Alors, la vitesse, là aussi, la vitesse est variable en fonction du groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une randonnée moyenne, avec une difficulté moyenne, si le groupe est constitué de 10 personnes, ça va être très différent d'un groupe constitué de 30 personnes parce que le groupe va s'étaler, on va avoir un nombre d'arrêts plus important, dont la vitesse moyenne va réduire forcément. Mais en moyenne, on marche avec des groupes d'une vingtaine de personnes, on arrive à marcher entre 3 et 3 km heure et demi. C'est à peu près la moyenne.
Ah, c'est correct. Hein.
Avec des petits groupes, on va marcher à 4 km heure ou même jusqu'à 4 et demi quelquefois. Quoi.
Et quand une personne débute, vient dans ton club par exemple, Serge, quel conseil tu lui donnes en premier?
Les premiers conseils, c'est le matériel, quoi. Déjà, c'est une bonne paire de chaussures, adaptée, en fonction des randonnées. Bon. Un sac à dos correct, puisqu'après on va mettre du poids et donc il y a des sacs à dos qui ne sont pas très chers mais assez mal faits, ils ne sont pas faits pour être portés la journée entière avec des poids importants. Et puis déjà c'est pas mal quoi. Pour le reste, bon, on peut attendre, on n'est pas obligé de... Alors, on peut acheter des bâtons. Hein.
Oui, pour la marche nordique.
Non, même pour la randonnée pédestre.
Ah oui.
Le bâton a un rôle un peu différent, il a un rôle de stabilité et de maintien quoi. Voilà.
Alors, dernière question avant de rentrer dans le détail justement de la rando pour tous et la pause musicale. Au niveau de la marche, on va dire la marche nordique, la randonnée pédestre, on va dire toutes les marches qu'on a pu voir depuis le début de l'émission, est-ce qu'il existe des sentiers spécifiques en fonction de telle ou telle discipline où tout le monde pratique utilise les mêmes sentiers ?
Moi, je pense que tous les sentiers sont praticables par toutes les disciplines. Mmh. C'est sûr.
D'ailleurs, qu'en randonnée pédestre, on va pouvoir rencontrer des marches nordiques.
J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, Serge, qu'en marche nordique, on ne pouvait pas faire de gros dénivelés.
Alors bon, la marche nordique, traditionnellement, les pratiquants, ils font ça sur un terrain qui est plutôt plat, avec un faible dénivelé. Mais bon, on est dans le Vaucluse. Et bon, on n'est pas les seuls, les terrains plats avec des faibles dénivelés, c'est pas courant, quoi. À part de faire les bords du canal de Carpentras,
bah oui, c'est ça.
Ça va être un peu compliqué, puis c'est pas trop... C'est un peu lassant, quoi.
Bah oui.
Donc, effectivement, nous, on fait un peu de dénivelé, quoi. Sur des sorties moyennes, on considère une sortie normale, des distances qui vont de 7 à 9 km environ, pour des séances de marche nordique, bien, on peut faire des dénivelés qui vont entre 100 et 350 mètres, de dénivelé. Donc, ce n'est pas très plat. Ce n'est pas toujours plat.
Ben non.
Alors, la difficulté qu'on a, on parlait de sentier tout à l'heure, on parle de dénivelé, mais il n'y a pas que le dénivelé. Il y a aussi, d'abord, le dénivelé sur quelle distance. Si le dénivelé, c'est 300 mètres sur 10 km, ce n'est pas pareil que les 300 mètres sur 1 km.
Ah oui.
D'accord. Donc, ça, ce n'est pas toujours précisé. Les gens disaient, ah, je fais 10 km, il y avait 300 mètres de dénivelé. Oui, mais est-ce que ça montait tout le long là, ou est-ce que c'était que sur une...
C'est pas le même effort.
C'est pas le même effort, voilà. Et après, il y a aussi la nature du terrain. Ça veut dire, si on marche sur une piste, bon, mais à la fois, c'est facile, on peut monter sans de grosses difficultés. Mais après, ça peut être très, très pierreux. Si on va au Mont Ventoux, il y a beaucoup d'éboulis, il y a beaucoup de rochers. Et voilà, donc c'est moins facile, quoi. C'est plus de difficultés. Donc, pour quelqu'un qui a des difficultés, qui a des problèmes de genoux ou de hanches... bon, il va peut-être monter avec difficulté, mais il va descendre avec beaucoup plus de difficulté parce que ça va être très pénible pour lui. Il n'aura pas la stabilité et voilà quoi. Et après, il y a aussi un autre phénomène qui fait que quand on avance dans l'âge, on a aussi un peu moins d'équilibre. La notion d'équilibre, elle diminue. C'est pas que la notion, c'est l'équilibre se réduit. Donc ben voilà quoi. C'est...
D'où le fait de la marche nordique. Allez, on fait une petite pause et on rentre justement dans les spécialisations.
Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, de retour après cette petite pause musicale, c'était Stay d'Alessia Cara. Voilà, ça t'a plu, Alexandre ?
Ouais, pas trop trop.
Ouais, bah, je peux pas te mettre que du Vald. Hein.
Non, mais si tu veux, je te sélectionne d'autres musiques. Allez. Pour la prochaine fois.
Ok.
Allez,
on fait comme. Oui, parce que Alexandre, c'est un jeune et il a besoin d'avoir des musiques.
Mais non, n'empêche, on a gardé.
En fait,
hein.
Pour les jeunes maintenant, les musiques d'il y a 3 mois, c'est des vieilles musiques déjà.
Mais non.
Alors que nous,
mais
on écoute des années 80.
Ah non,
et
non,
pour nous,
ah
c'est
non.
Génial.
Ah non,
c'est,
mais moi,
c'est
bah
dépassé.
Non.
Bah
non,
pas, mais tous les jeunes, c'est ça.
Bah non. Moi, j'écoute des trucs des années 90.
Bon,
aussi,
c'est pas celui. C'est pas le sujet.
Tu oublies une chose, c'est que son père, c'est un musicien. Et que lui-même aussi.
Un excellent musicien, t'as envie de dire.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Toute ma famille est musicienne.
Ah bon ?
Oui. Je suis le seul.
Et toi, tu joues du pipeau, non ?
Non, moi j'étais ancien musicien, mais j'ai arrêté.
Ah, tu faisais de la flûte ?
Non, de la trompette.
Ah,
c'est pas facile ça.
J'ai fait de la trompette et après j'ai fait de la basse.
Serge aussi, tu fais de la trompette ?
Bien sûr.
Ah, bah, vous allez pouvoir vous entendre. Vous avez
un duo.
Bon, tiens, Alexandre, comme tu as le micro, lundi dernier c'était Valérie qui s'est collée.
Qu'on peut nous réécouter, c'est ça ?
Ouais.
Alors le mercredi de 6h30 à 8h sur le 102.2. Et après, le podcast, il sera le mercredi dans la journée sur le www.rtvfm.net et sur la page Facebook RTVFM.
Oh eh, il s'est pas trompé une seule fois.
Ben non, bien,
au
il assure.
Ans, c'est... Au bout de 3 ans, c'est pas mal.
Il assure, hein. Non, mais il assure.
Il assure.
Au bout de 3 ans, j'ai réussi à retenir quand même.
Ouais, c'est pas mal.
Bah oui, j'allais bien.
Bon, tu t'entraînes pour le bac, c'est pour ça.
Exactement.
Bon, alors, on va parler maintenant donc, des différentes spécificités de la rando pour tous. On va commencer par la rando santé. Donc la rando santé, combien il y a de clubs au jour d'aujourd'hui en Vaucluse qui proposent cette discipline ? Par exemple, Serge, toi, tu la proposes ?
Non, on a une rando douce, mais pas une rando santé.
D'accord. Donc au niveau des clubs ?
À l'heure actuelle, nous avons 2 clubs labellisés. Est-ce qu'ils font le label, là, hein ? Le label rando santé. Il y a 2 clubs dans le Vaucluse. Le club de Monteux, qui s'appelle, je crois, Marche et Rando. Et donc le Solar d'Eviron, voilà. Et actuellement, il y en a qu'un qui pratique, c'est le Solar d'Eviron sur le Pontet, parce que sur Monteux, il y a eu des petits problèmes de démarrage. Et là, il y a d'autres personnes qui vont se former, qui sont en train de se former même, et qui vont, disons, agrandir un petit peu, étoffer l'équipe existante à Monteux.
Parce que là, au niveau de l'encadrement, il faut vraiment un encadrement spécialisé.
Il faut d'abord avoir, ce qu'on disait tout à l'heure, un spécifique animateur 1.
Voilà, donc ça, d'accord.
Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez ça, il vaut un module de formation complémentaire je crois que c'est sur deux jours. Et donc, avec ce diplôme-là, ça vous permet d'accompagner des groupes de personnes qui ont des problèmes de santé avec des pathologies.
Et est-ce que cette discipline, elle est restrictive ? C'est-à-dire, je m'explique, quand on fait de la randonnée traditionnelle, on peut le faire en famille, avec son épouse, avec ses enfants. Là, la rando santé, c'est vraiment pour des personnes qui ont des problèmes physiques. Donc, est-ce que les personnes qui sont en bonne santé, mais qui font partie de la famille, de la fratrie, peuvent venir avec ?
Il n'y a rien d'interdit.
Donc, ça peut toujours être des randonnées familiales.
Nous, jusqu'à présent, on n'a pas vu le cas. Ça fait 1 an que nous pratiquons sur le Pontet. Et donc, on n'a pas eu ce cas-là. Donc, ça ne doit pas être trop, trop fréquent. Par contre, on rencontre ça avec les handicapés. La rando handi, mais on en parlera tout à l'heure.
Ouais.
Voilà. La rando santé, donc, ce sont des personnes qui ont un problème de santé. C'est divers. Hein. Ça peut être un problème cardiaque, ça peut être un cancer soigné, stabilisé, ça peut être un problème rénal. On a des personnes qui sont en dialyse.
Donc, c'est pour des grosses pathologies ?
Des grosses, oui. Des grosses pathologies.
Et est-ce que cette rando, c'est une rando loisir pour eux ou une rando thérapeutique ?
Déjà, pour le moral. Parce que ça, c'est très important. Et nous, on y fait attention avec l'association du Pontet. Nous sommes très, très proches, c'est presque familial, avec ces personnes-là. Et ces personnes-là, je peux vous dire que sur une année de fonctionnement, les gens qui sont inscrits au départ sont toujours venus. Ils n'ont jamais manqué. Pour eux, c'est primordial. Et ils oublieraient ça pour rien au monde.
C'est vrai que c'est important d'avoir une régularité.
Et ça, leur fait bien au, ça leur fait du bien au moral et bien sûr à leur santé pour accepter, puisque ce sont des gens souvent qui ont des maladies quand même en rémission parfois. Hein, donc ils ont besoin qu'on les stimule, ils ont besoin de parler d'autre chose, ils ont besoin voilà, d'un sourire, ils ont besoin d'une, d'une discussion. Voilà. Et donc ces personnes-là viennent aussi pour ça.
Et au Solar, donc, vous êtes pour l'instant le seul club hein, sur les deux qui mettait ça en place officiellement. Combien de sorties vous faites mensuellement ? Une par semaine ? Une par mois ?
C'est une par semaine, le mercredi.
Ah oui, donc c'est très régulier, c'est
ce
toujours
matin,
pareil.
Ce matin, il y avait une rando santé chez vous, à Carpentras, au bord de la rivière Ozon.
De l'Ozon.
En partant des berges, voilà. Et donc c'était une randonnée qui correspond vraiment au cahier des charges, c'est-à-dire 5 km 400, 25-30 mètres de dénivelé, presque rien, et puis une allure vraiment très tranquille, avec des arrêts fréquents. Alors, en marche, c'est différent déjà dans la formation du groupe, la rando santé. Parce qu'on a l'habitude de voir dans les randonnées traditionnelles, même en rando douce, hein, que l'animateur, le guide, hein, est toujours devant. C'est lui qui mène son groupe. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Il faut être deux. Devant, ce n'est pas obligatoirement la personne animateur qui a le diplôme qui est là. C'est celui qui trace le chemin, qui indique l'itinéraire. La personne qui a reçu la formation de santé est derrière.
Un peu comme le berger,
voilà.
Avec ses brebis.
Cette personne-là a une lourde responsabilité parce qu'il doit naviguer dans tout le groupe. Il doit partir de la fin, s'arrêter au milieu, aller au devant, et c'est lui qui voit s'il y a un problème particulier qui nécessite quelque chose.
Ah oui. Mais est-ce qu'il est accompagné ? Exemple, est-ce qu'il y a un membre du corps médical, un médecin, un infirmier, une aide-soignante, ou quelqu'un qui peut intervenir en cas de problème ?
Toutes les personnes qui marchent actuellement, et là ce matin on était bien contents parce que nous étions 18.
Ah, ça fait
donc
beaucoup,
ça commence à faire. Pas mal. Surtout qu'on a commencé à 1-2. Donc, sans faire de publicité particulière, doucement, ça se dit. Et les personnes téléphonent au président et les personnes s'inscrivent. Et une fois qu'ils sont inscrits, on les voit continuellement toutes les semaines.
Mais est-ce qu'il y a un médecin avec vous ?
Il n'y a pas toujours un médecin. Ces personnes-là sont obligatoirement vues par notre médecin. Voilà. Il n'y a personne qui n'a pas été vu par le médecin fédéral.
Donc, au moment de la randonnée, s'il y a un problème, l'animateur est formé pour intervenir.
C'est ça. C'est ça. Mais nous, en fait, comme dans les autres, peut-être un peu plus, mais comme dans les autres randonnées, ça se limite à quoi ? À se rendre compte, à connaître un petit peu les signes qui apparaissent sur le visage, sur une difficulté pour discuter, pour se servir de son bras, tout ça. Autrement, il faut être très présent, poser des questions sans arrêt, il faut être un petit peu une petite infirmière. Parce que c'est nous qu'on doit penser aux gouttes que doit prendre l'un à 11h, le cachet que doit prendre l'autre à midi. Voilà.
C'est toute une logistique.
Oui.
Ah oui, donc effectivement. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant.
Ce qui est passionnant, c'est que ces gens-là, ces personnes-là, ont besoin de nous. Nous, on est là pour eux. Et ils nous le rendent très, très fort.
Bon, ben écoute, on a appris beaucoup sur la rando santé. On fait une petite pause et on parle après de la rando douce. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make. Make it up.
so do yours. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room?
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Nous revoici dans le studio. Avant de continuer à parler de rando, en l'occurrence de rando douce, mon petit Alexandre,
oui.
Le sportif de la semaine, rugbyman rugby à 15,
c'est ça,
de Toulon.
De Toulon, qui est même est très connu et très expérimenté. Il s'agit de Vincent Clerc.
Et il est pas à la retraite, lui
parce qu'il est... Non, il a 36 ans, il est toujours là.
Et, ouais, il, est
et, et il a marqué son 100e essai en championnat ce
top
week-end.
Top 14,
c'est un record. Il arrive à un record que personne n'avait égalé depuis très, 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 très longtemps. Il faut savoir que c'est un joueur qui a connu beaucoup, beaucoup de bons moments et beaucoup de grands moments. Il a gagné 3 Coupes d'Europe avec le Stade Toulousain. Il a gagné... Et il a perdu 2 finales de Coupe d'Europe et donc 14 participations en compétition européenne. Il gagne le championnat de France à 3 reprises également et il termine 2 fois vice-champion de France également. À noter qu'il a fait la Coupe du Monde 2011, l'année où la France a fait la finale. Et il était également en 2007. Il a aussi gagné le tournoi des 6 nations en 2004, 2007 et 2010. Dont 2 éditions en Grand Chelem. Donc, grande carrière. Et à noter qu'il a marqué depuis le début de sa carrière. Alors, avec l'équipe de France, sachant qu'il a, entre 2002 et 2013, il a marqué l'équivalent de 170 points. Rien qu'avec Toulouse, il a marqué plus de 600 points. Ça fait en 300 matchs.
Il joue quel poste ?
Il joue ailier.
Ailier.
Et là, il joue à Toulon donc depuis 2 saisons. Et il a joué 9 matchs. Et il a marqué 3 essais.
Chapeau.
Et là, maintenant, il est devenu donc, l'un des meilleurs marqueurs de l'histoire en top 14.
Ah et oui, parce qu'il n'y a personne qui a réussi à le battre pour l'instant.
100 essais, c'est un record qu'il devait égaler et il est enfin arrivé. Donc, félicitations à lui.
Mmh. Oui, Valérie.
Non, c'est parce que je regardais aussi, il a fait la majorité de sa carrière à Toulouse.
Oui, à Toulouse. C'est d'abord un Toulousain qui a gagné.
Il a fait
beaucoup.
Grenoble avant et Toulouse après. Oui.
Et Toulon, il est arrivé il y a combien de temps à peu près ?
Il y a deux ans. Il est arrivé il y a 2 ans à la suite d'une fin de contrat à Toulouse. Il ne voulait pas prolonger. Et puis voilà.
Et pour l'instant, il n'a pas dit « j'arrête ma carrière ». Parce que 36 ans, c'est pas tout jeune. Hein.
Il n'a pas prévu d'arrêter sa carrière pour le moment. Il pense peut-être pourquoi pas faire une nouvelle saison et pourquoi pas battre le record du nombre de descentes top 14.
Et pour l'équipe de France ?
Oh, ouah, ça c'est mort ça. L'équipe de France,
il y a meilleur que lui ?
Oui, il y a meilleur que lui, et surtout il y a plus jeune que lui, beaucoup plus
intéressant. Oui, c'est pas parce que t'as plus jeune que forcément ils vont pas le choisir. Parce que si j'ai bien compris, c'est en 2013 qu'il a arrêté.
Ouais, mais après 36 ans, ça commence à faire vieux quand même. Hein.
Ça peut faire vieux, mais bon, quand tu vois les joueurs d'équipe de France, même les jeunes...
Les joueurs de l'équipe de France, voilà, pour un joueur de rugby, 36 ans, tu vas pas jouer en équipe de France. Hein,
Tu remarqueras, Alexandre, que là, on est tous des anciens maintenant.
Oui, je sais.
Donc respect, tu vois, il n'y a pas beaucoup de cheveux. Hein.
Non, mais 36 ans,
c'est jeune.
36 ans dans le rugby, c'est vieux.
Non, c'est vrai. Mais en tout cas, quand tu vois certains joueurs qui sont jeunes, franchement, ils sont pas à sa hauteur. Hein.
Tiens, d'ailleurs, j'ai une info, si tu veux, pour ce week-end, pour le France-Pays de Galles. Pour le France-Pays de Galles, oui. Mathieu Bastaro est capitaine.
Ah ouais ?
Il était capitaine, ouais. Parce que Guillaume Guilarado était blessé, du coup, c'était Bastaro le capitaine.
D'accord. Bon, bah écoute, hein, on verra ça. On va parler maintenant de rando douce. On a parlé de rando santé. Jean-Pierre, la différence justement entre la rando santé et la rando douce ?
La rando douce, c'est comme une rando traditionnelle. La pratique qui veut. En ce qui concerne la rando douce, ce sont des gens qui ont déjà fait des randos traditionnels et qui veulent, comme on disait tout à l'heure, réduire un petit peu leur...
L'allure ou la difficulté, quoi.
Mais est-ce que justement... Ça concerne une certaine tranche d'âge, parce qu'Alexandre disait qu'à partir de 37 ans, on était des vieux, de 36 ans.
Non, j'ai dit à partir de 36 ans, dans le foot, dans le rugby, dans les sports de ce style, tu commences à arriver en fin de carrière.
Voilà.
Et tu ne vois pas de joueur de foot de 45 ans.
En rando, est-ce qu'on arrive également en fin de carrière ?
Mais heureusement qu'il y a la rando douce.
Bah voilà. Mais à partir de quel âge à peu près tu peux...
Oh, je ne sais pas, il n'y a pas d'âge vraiment, mais je dirais que nous, on rencontre des personnes qui vont de 60 à 75 ans.
À plus de 80 chez nous.
Ouais, plus de
les
80.
Les gens à 82 ans, ils marchent, ils font encore des randos les plus difficiles du club.
Ah ouais,
là,
ouais. Ouais. Parce que chez toi, le plus ancien...
82 ans.
82 ans. Oh, c'est admirable.
Ouais.
Franchement, c'est... Alors, au niveau de la rando douce, justement, c'est plus ancien, plus récent que la rando santé ?
C'est plus ancien.
Plus ancien.
Ah oui. La rando santé, il y a combien ? 2 ans maximum qu'on en parlait ? Pas plus ? Mmh. Alors que la rando santé, ça fait plusieurs années. Hein. Je dirais 5 ans, mais bon, plus encore.
Et au niveau des clubs, est-ce qu'ils sont plus nombreux à proposer la rando douce ? Alors, on va faire une petite aparté, parce qu'on en a parlé pendant la pause musicale, Jean-Pierre. Mmh. On parlait qu'il y avait 2 clubs pour la rando santé : les Soleils d'Aviron, club dont tu es membre.
Oui.
Tu as également le club de Monteux.
Oui, Marché.
Mais tu en as une troisième qui est en train de se créer.
Oui.
À Orange, c'est ça ?
Oui, l'ARPO, qui, disons, était intéressé pour proposer de la rando santé. Et donc, eux, ils commencent à zéro. Et il faut qu'ils aient d'abord leur spécifique animateur 1. Et ensuite, ils vont passer le module de formation complémentaire à rando santé.
Est-ce que tu sais à peu près que dans combien de temps ils pourront commencer à proposer ?
Moi, je pense qu'ils seront fin prêt au deuxième... janvier, février, mars, troisième trimestre.
D'accord.
Troisième trimestre de l'année.
De toute manière, tous les renseignements, on les trouve sur le site de la FEDE ?
Oui, bien sûr.
Bon, mais voilà.
Passez donc... d'abord par téléphoner ou écrire à la FEDE qui vous donneront les éléments de chaque association.
On part du principe qu'il y a 3 clubs en 2018 pour la rando santé.
Il y aura 3 clubs.
Et au niveau de la rando douce ?
Ben, je ne sais pas exactement, on n'a jamais fait de recensement particulier.
Mais il y en a plus.
Il doit y en avoir énormément.
Tu en fais, toi, Serge ?
Oui, on en a, oui. Le lundi après-midi, en général, oui. Je pense qu'il y a une majorité de clubs
c'est juste Valérie qui maîtrise difficilement.
Il y a une majorité de clubs qui font de la rando douce. Hein.
Alors, justement, par rapport à la rando douce, quels sont les critères pour dire, voilà, cette randonnée rentre dans ce cas de rando douce ?
Je pense que les critères, ils sont surtout définis par les associations. Je ne sais pas si on a tous les mêmes critères, on vise à peu près les mêmes choses, mais par exemple, chez nous, on s'est fixé un dénivelé maximal de 200 mètres, 250 mètres maximum, mais une distance qui va entre 7 et 9 kilomètres. Voilà.
C'est ça, tout à fait.
Mais bon, après, c'est quelque chose de près.
Ouais, un dénivelé, j'ai vu que c'était 250, voilà, 200-250 mètres.
Ouais. Donc, voilà. C'est vraiment tranquille pour les personnes
c'est doux.
Voilà, c'est doux. Alors, il y a une autre rando hein, qui est un petit peu moins bien connue maintenant, c'est le Handy Rando. Oui. Là aussi, combien de clubs peuvent participer justement à l'encadrement de l'Handy Rando ?
Alors là, c'est un peu particulier parce que nous sommes actuellement sur le département une seule association qui propose ça.
Donc c'est ton
association. C'est l'association du Pontet, donc les Solaires d'Éviron. Mmh. Hein. Nous proposons ça depuis. Ça a commencé avec la Rando Santé, c'est-à-dire il y a à peu près un an. Et là, nous travaillons donc en partenariat avec l'association des paralysés de France, qui nous donne des noms de personnes qui veulent faire une randonnée avec nous.
Et ça concerne des personnes qui sont handicapées ou en situation, on va dire, à mobilité réduite ?
À l'heure actuelle, ce sont toutes des personnes qui sont en fauteuil roulant, donc handicapées.
Et ils utilisent les mêmes sentiers que les personnes valides ou non ?
Ah non, pas du tout, pas du tout. La rando douce, c'est un peu particulier, mais la rando sentier et la rando handy, ce sont des chemins, des sentiers qu'on doit voir avant. C'est pas n'importe quel chemin sentier qui peut faire l'affaire. Voilà.
Oui.
Par exemple, en rando santé, il faut que ce soit un sentier ou un chemin qui soit à proximité. Quand je dis à proximité, c'est-à-dire à côté d'une voie où il y a possibilité de secours. S'il n'y a pas ça, ça ne se fait pas.
Oui.
Voilà. Ça, c'est le cahier des charges. Quelqu'un qui voudrait passer outre et dire « je veux présenter une rando, mais il n'y a pas de voie de secours, mais je fais quand même. » Mais il a tout faux. Hein. Et en plus, le président risque d'avoir sur le dos...
Ah oui, donc c'est bien réglementé.
Ah oui, il y a un cahier des charges très, très, très précis.
Et la rando,
c'est pareil. C'est pas n'importe quel chantier qui peut faire l'affaire. Il faut que ce soit quand même roulant, c'est-à-dire carrossable. Hein. Et bien sûr, pas trop de dénivelé aussi. Un peu. Il faut dire quand même qu'ils ont des fauteuils roulants électriques. Ils sont modernes. Alors ça veut dire qu'ils ont des vitesses qui sont plus fortes que les nôtres. on court derrière pour les rejoindre, nous.
Ah oui.
Ah oui.
Et il y a combien de participants habituellement ?
Pas beaucoup. Deux camions, parce que chaque personne est amenée dans un véhicule aménagé. Donc on a deux véhicules de quatre fauteuils roulants, c'est-à-dire huit. Voilà.
Mais c'est déjà pas mal, parce que c'est tout récent cette activité, non ?
Un an.
Un an.
Alors, le problème, il faut savoir que nous, on le continue parce qu'au début, ça rentrait vraiment dans le cahier des charges de la fédération nationale. Mais maintenant, ils ont revu un petit peu leur histoire et ça en fait plus partie. Dans la rando santé, avant, il y avait la Handy Rando qui en faisait partie. Mmh. Maintenant, c'est terminé. La rando santé,
il n'y a plus.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les pathologies. Ce n'est pas des handicaps. Par contre, nous, l'association, on a commencé, on a eu des retours formidables, toujours pareil, et on continue pour les gens. Mmh. Voilà.
Parce qu'il y a de la demande.
Il y a de la demande et puis ça fait un plaisir énorme à tout le monde.
Non mais ça c'est... Et par contre au niveau de l'Handy Rando, est-ce qu'il faut un fauteuil spécifique ou le fauteuil de tous les jours ?
Ils sont tous équipés, ils ont leur fauteuil roulant et chaque randonneur handicapé a son infirmière qui suit, à son partenaire.
Ah oui ?
Oui. Donc parce qu'il faut les faire manger, ce sont des gens qui sont impotents complets. Hein. Ils peuvent te faire un sourire, tu vois leurs yeux qui s'animent, mais c'est tout quoi. Il dit parfois
oui, c'est des handicaps assez lourds.
Oui, c'est lourd, très lourd. Et donc là, quand ils aiment bien manger dehors le midi, ils aiment bien faire le pique-nique. Et donc là, on a besoin de des partenaires quoi, qui les font manger. S'il y a un petit coin de toilette, il faut qu'ils amènent notre coin de toilette. Et voilà, tout ça.
Ce qu'on fera, c'est que dans le podcast, je mettrai également les coordonnées des Solaires d'Éviron, de manière à pouvoir, s'il y a des auditeurs intéressés, aussi bien par la rando santé que par l'Handy Rando, avoir tous ces renseignements-là.
Si tu me permets, Lionel.
Je te permets tout.
Et très, très rapidement. Je voudrais faire, l'autre fois je voulais le faire puis j'ai pas eu le temps, c'est faire un appel parce que jusqu'à présent nous fonctionnons de bouche à oreille, mais bon c'est vrai que ça serait bien que des personnes en charge soient informées de ça. Hein. Je pensais aux médecins traitants parce qu'on travaille bien sûr avec eux, les médecins spécialistes diabète, cardiologie, tout ça, Les foyers logements aussi, hein, parce que les foyers logements, je ne dis pas les maisons de retraite, hein, parce que les maisons de retraite, ce sont souvent des gens handicapés. Hein. Pour la rando santé, il faut que ce soit des gens quand même qui soient mobiles. Donc les foyers logements, c'est vraiment le cadre numéro un. Il faudrait que dans ces foyers logements, le bruit court que ça existe et que voilà et qu'on les attend.
Et ils prennent contact avec qui ?
Je crois que le mieux, c'est de prendre contact avec l'association Les Souleurs d'Aviron ou la Fédération Française de Randonnée.
Bon, donc c'est important qu'on mette toutes ces coordonnées.
Voilà.
Allez, on fait une petite pause, dernière pause de la soirée, et ensuite on parlera de la marche nordique, même si on a déjà parlé de la marche nordique, mais également du rendez-vous du 24 mars.
Ah oui.
C'est bientôt et c'est important. À tout de suite.
Par contre, oublie Marise, nous. Marise. Monique, elle nous dirait deux mots.
À tout de suite.
I was wondering about your mama. Did she get the job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious but I'm honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? You tied since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good, but you know we had something so good. Something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends?
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, de retour dans l'émission. Dernière partie, ça passe vite, ça passe trop vite. Sans résultat, ça passe encore trop vite. Mais bon, en tout cas, c'est parce qu'on a des personnes qui sont intéressantes et on prend vraiment plaisir à s'informer sur la randonnée, la rando pour tous. Et on va prendre plaisir également à se renseigner sur la marche nordique. Il y a un événement qui va avoir lieu samedi, le 24 mars, à Sérignan du Comtat. On va en parler en deuxième partie de cette dernière partie. Mais avant, la marche nordique, donc toi, tu es, Serge, tu es...
Animateur.
Alors, la marche nordique, pourquoi il y a autant d'enthousiasme ? Parce que c'est vrai que maintenant, quand on parle d'activité dans des événements sportifs, etc., on parle toujours maintenant de marche nordique. Et la randonnée, elle est remise un petit peu au second plan. C'est une impression ou c'est vraiment une réalité ?
Alors, si on compare à la randonnée et la marche nordique, c'est quand même assez différent. La marche nordique, ça reste un peu plus sportif et un peu plus dynamique, forcément. Quand on parlait de vitesse tout à l'heure en randonnée, on parlait de 3 km/h, 3,5, 4. La marche nordique, suivant la forme le terrain, on va dire, ça peut aller de 5 km/h à 7 km/h.
Mais par contre, il y a moins de difficultés.
Il y a moins de difficultés que quoi ? Que quoi ?
Que la randonnée. On parlait tout à l'heure que la dénivelée était moins importante en marche nordique.
Ah non, on peut tout faire. Mais c'est vrai que la plupart des gens, ils font ça sur un terrain avec des dénivelés faibles, parce que c'est la base de la marche nordique. Par contre, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ici, on a des terrains qui sont relativement accidentés dans le Vaucluse, aussi dans des régions environnantes. Et donc, on ne peut pas faire que du plat. Et on va trouver des terrains qui sont avec un peu de dénivelé. Quoi. On peut faire sur une sortie qui va de 7 à 9 km, on peut faire des 300 mètres de dénivelé, 350 mètres. Quoi.
Et est-ce que c'est compliqué de maîtriser la marche nordique ?
Alors je dirais que ce n'est pas si simple que ça. Les gens, quand ils arrivent, ils pensent que, ma foi, avoir marché les autres, c'est relativement facile. Mais ça reste très technique. Ça reste technique parce que, notamment au niveau des mouvements de bras.
Il y a une coordination.
Il y a déjà la coordination, ce que tout le monde n'a pas parfaitement. Donc il faut déjà trouver la bonne coordination. Mais après, ça vient quand même assez rapidement. Mais le plus difficile, c'est au niveau des bras, parce qu'en fait, il faut avoir la main va très loin derrière pour pousser. Et ça, en général, les gens ont tendance à marcher comme en randonnée pédestre, c'est-à-dire ils ramènent le bras devant, ils plient le bras. Et ensuite, quand ils veulent pousser, ils ne poussent pas vraiment. En fait, quand on pousse, on doit se propulser vers l'avant et pas vers le haut. Si on plie le bras, on va se pousser vers le haut. Voilà. C'est la difficulté, je dirais, majeure. Ensuite, il y a aussi le déroulé ou le pas. On déroule le pied et on ne marche pas à plat. La randonnée pédestre...
C'est-à-dire qu'on pose l'intégralité du pied ?
On pose
du talon à la pointe des pieds ?
Ouais, avec le talon et on déroule le pied jusqu'à la pointe du pied. Et quand le pied est derrière, on a tendance à faire du grand pas, parce que quand on pousse avec les bras, automatiquement, on crée des équilibres plus importants. Et donc, on va basculer en avant et pour se rattraper, on va dire, on va allonger le pas. Du fait d'allonger le pas, on attaque par le talon et le pied qui est derrière, toujours en appui, il est sur la pointe du pied.
Et alors qu'en randonnée pédestre, le pas n'est pas le même ? C'est-à-dire qu'on ne fait pas talon à la pointe du pied, non ?
On peut le faire, mais le pas est plus court. On va moins vite, donc le pas est plus court. Et en fait, on a une pose qui est plus à plat, on va dire... qu'en marche nordique.
Et toi, Valérie, quand tu avais justement débuté, tu t'étais initié il y a 2-3 ans de ça, est-ce que tu as trouvé justement une certaine difficulté ?
Disons que...
Ou ça vient naturellement ?
Je ne sais pas, peut-être que pour certaines personnes, c'est plus facile que d'autres, oui. Mais... Donc on nous avait bien expliqué, et après quand c'était à Somane, je sais qu'il y avait à un moment donné, il y avait des petites côtes, on nous disait bien, mettez bien le bâton comme ça, mettez bien le bras là-bas au fond, au bout, je veux dire, non, pas spécialement, on m'avait bien expliqué, maintenant je n'ai pas le geste, comme il dit, il faut pratiquer. Quoi, hein. Voilà, moi quand je vais toute seule, je ne vois pas mes défauts. Donc je sais pas, voilà. Je sais que je mets mon bâton, j'y pense souvent.
Mais tu t'es inspiré de ce qu'on t'avait appris.
Tout à fait. On avait une guide, enfin une animatrice très bien qui nous expliquait. Et puis voilà. Et c'est vrai que tout à l'heure il parlait d'allure et on était bon. Moi j'avais pris le groupe débutant parce que bon, je savais pas du tout et j'allais beaucoup plus vite que les autres et à chaque fois on était obligé de s'arrêter. Pour attendre. Et c'était même long, hein, parce qu'on attendait des fois 5 à 7 bonnes minutes. Hein, parce que les personnes derrière, ça papotait, puis ça marchait doucement, tranquille. Alors qu'en fin de compte, même la démonstration, c'est. Je veux dire, tu marches vite. Voilà, tu marches vite.
C'est vrai.
C'est ce qui va se passer un petit peu, donc le 24 mars à Sérignan-du-Comtat, c'était ce qui s'était passé à Somane. On en est à quelle journée ? Parce que c'est plusieurs éditions qui ont eu lieu maintenant.
C'est la troisième année.
Donc toi, tu as fait la première à Somane, hein, c'est ça Jean-Pierre ? C'était la première.
À Somane, Jean-Pierre, c'est la troisième année ? Non, là, c'est pas Somane, là.
C'est Sérignan.
C'est Sérignan. C'est la troisième journée. Là.
Hein, voilà. C'était la première édition.
C'est la première, oui, je me souviens plus exactement.
Oui, ça fait 3 ans.
Et justement, comme disait Valérie, donc à Somane, elle avait eu la possibilité de s'initier. Est-ce que à Sérignan-du-Comtat, ça sera la même chose ?
Alors à Sérignan, il y a plusieurs. Ça s'adresse en fait à plusieurs publics. Il y aura un parcours de débutants et une initiation complète avec prêt de bâton.
Avec un animateur ou une animatrice.
Avec un animateur ou plusieurs. la fédération et les clubs prêtent des bâtons et puis ils font l'initiation, l'explication de ce qu'est la marche nordique, comment ça se pratique, quels sont les équipements, quel est le geste, le bon geste, etc. Et puis ensuite, il y a trois parcours différents. Un parcours qu'on appelait familial, parce que bon, s'il y a des enfants, ils peuvent le faire également, qui fera 6 km. Un parcours qu'on appelait tonique, qui est sur 9 km. Et un parcours qu'on appelait sportif, qui est sur 12 km. Voilà.
Donc là, c'est à Sérignan-du-Comtat. Donc c'est samedi 24 mars, c'est ça ?
Tout à fait.
Au niveau des inscriptions, il faut s'inscrire obligatoirement ?
On peut s'inscrire en téléphonant à la FFR. Hein. On peut aussi s'inscrire sur place le jour même. Il faut arriver à 9h. L'accueil, c'est à 9h. La salle du Moulin à Sérignan. Les échauffements se feront à partir de 9h30 et les départs à 9h45.
Ah, il y a quand même des échauffements avant.
Oui, il y a toujours échauffement avant et puis alors, à la fin, c'est un
étirement.
Ah oui, c'est sérieux.
C'est relativement complet. Donc c'est vrai, en général, on fait 10 minutes d'échauffement avant de partir. Mm-hmm. Pendant une séance, quand c'est bien fait, on fait un peu de renforcement musculaire. Ça peut durer de 5 à 10 minutes. Et à la fin, on fait toujours des étirements.
Et au niveau justement du programme, donc le rendez-vous est fixé à 9h, si j'ai bien compris, pour les échauffements. Après, pour les trois types de parcours, tout le monde partira en même temps. Comment c'est organisé ?
On a dit que les départs se feront à 9h45. Il y aura sûrement, en fonction des parcours, il y aura des départs différés. S'il y a plusieurs groupes, il y aura un décalage dans le temps d'une dizaine de minutes pour éviter que les groupes se...
J'ai les horaires éventuellement, là.
Oui, Jean-Pierre.
Tu dois les avoir. 9h, donc, c'est accueil, inscription, avec le café.
Ah, c'est important.
Quand même, ben oui. À 9h30, c'est échauffement collectif en musique de tous les parcours.
Ah, en musique.
9h45, okay. C'est le départ du 12 km, dénivelé 400 mètres. 9h55, c'est départ de 9 km, dénivelé 300 mètres. Et à 10h, c'est le départ du 6 km, dénivelé 200 mètres. Et à 10h aussi, il y a un plateau découverte pour ceux qui découvrent cette discipline-là.
Ah, c'est bien comme ça, au moins, ça permet vraiment. Et j'ai bien compris qu'on prêtait également les bâtons.
Oui. Oui.
Parce que le choix des bâtons, c'est quand même particulier. Hein.
Oui, il faut définir la bonne longueur. Quoi. Alors, pour les débutants...
En fonction de ta taille.
C'est ça. Pour les débutants, on prête des bâtons et ils sont ajustables. Ça permet d'essayer des longueurs différentes. Bon, on connaît la longueur moyenne par rapport à la taille et à la position du bras, parce qu'on dit que le bras doit être en équerre à 90 degrés, etc. Mais bon, ensuite, ça va dépendre aussi de la vitesse à laquelle on marche et de l'expérience qu'on a dans le domaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au départ, on va prendre des bâtons d'une certaine longueur et qui vont convenir tout à fait pour débuter. Mais assez rapidement, si on marche régulièrement et on commence à marcher plus vite, on va avoir besoin d'un bâton qui est un peu plus long parce qu'on a tendance à encore, en rallongeant le pas, il faut encore pousser plus loin.
Donc, c'est vraiment très spécifique.
C'est spécifique.
Valérie, tu voulais rajouter ?
Oui, moi, ce qui m'avait surpris lors de ces réunions-là, lors de ces journées, ce sont les marcheurs, on va dire, confirmés qui partaient, rapidement, on les voyait marcher, presque courir. C'est vrai, hein, c'était assez impressionnant. On avait l'impression qu'il faisait la course, quoi. Hein. Et puis à l'arrivée, c'était aussi surprenant, quoi. Hein.
Oui.
C'est vrai qu'il y avait une grande différence entre les uns et les autres, quoi. Hein.
Alors la différence se creuse assez rapidement quand on commence à maîtriser la technique. On s'en rend compte dès que les gens passent le cap quand ils commencent à avoir une bonne maîtrise, ils changent d'allure. Et les autres, ils essaient de suivre, mais ils ont tendance à courir, quoi. C'est un signe, en fait.
C'est vrai que c'est assez impressionnant, hein, l'allure.
Mais justement, lors de cet événement, il y aura possibilité. Alors, il y a un deuxième événement, hein, Jean-Pierre, qui aura lieu en mai, c'est le Rando Challenge. Donc, on pourra en reparler. Soit tu viens nous voir parce que tu sais où on habite, ou éventuellement, on peut faire aussi un duplex téléphonique. Ça sera court en mai. Hein,
oui,
et le Rando Challenge, donc, c'est quoi la différence ? C'est pas une initiation, c'est une petite compétition ?
Non, ce n'est pas une compétition. Pas du tout. C'est une journée encore familiale et conviviale. C'est un jeu.
Voilà. Ce sont des journées de sensibilisation.
Ça ressemble un peu à un jeu de piste. Et c'est une randonnée, donc.
Et donc, tous les ans, c'est au même moment, c'est au mois de mai.
Oui, c'est toujours au mois de mai, oui.
De toute manière, nous, on va mettre tous les renseignements, bien sûr, sur la page Facebook, sur le podcast. L'affiche, elle sera également publiée dès demain sur la page de vous, et je crois même qu'on l'a déjà publié. Oui, Jean-Pierre ?
Un petit mot, je crois pas que tu l'aies dit. Pour les enfants jusqu'à 16 ans, c'est gratuit. Et c'est 5€ par personne.
Oui, donc c'est vraiment pas cher. C'est rien du tout. En plus, on a le café. Donc c'est le prix du café.
Et la convivialité.
Et le pot d'amitié à midi.
Et voilà, donc c'est très important. Et le pot d'amitié, oui. Bah en tout cas, merci vraiment à tous les deux. Hein. Jean-Pierre Tadieu, chargé de communication auprès de la Fédération française de randonnée pédestre de Vaucluse, et Serge Bisséglier, animateur de randonnée et de marche nordique, et également président du club de Carpentras, les randonneurs des Sentiers Contadins. Comme on a fait ta connaissance, Serge, si tu es d'accord, on te réinvitera pour parler du club de Carpentras, parce que voilà, il y a un club à Carpentras, c'est bien de le mettre en avant. Et puis, bon, pour Jean-Pierre, on mettra bien sûr dans le podcast les coordonnées des Solars d'Eviron. Grâce à eux, on peut faire de la rando santé, on peut faire de la handi-rando. Mais en tout cas, vraiment, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexandre, merci Valérie, merci
bonne
Bruno,
soirée à tout le monde.
Merci à vous,
notre
et
technicien
bonne soirée,
ouais.
Merci à vous.
Préféré. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. La semaine prochaine, on parlera de la Carpentras Night Fever avec un des vice-présidents de l'Office municipal des sports. Allez, bonne semaine sportive à tous et à toutes.